vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Voilà, mais vous aimez le cinéma, ça tombe bien, je vous parle d'un film qui parle de cinéma. Il s'agit de Good Morning Babylonia, un film des frères Taviani, Paolo et Vittorio Taviani. Ce sont deux réalisateurs italiens, comme leur nom l'indique, et je disais que c'est un hommage au cinéma. C'est un hommage aussi à Griffith, c'est-à-dire David Wark Griffith. C'est donc un réalisateur, comme vous le savez, hollywoodien des années 1920, avec des films muets qui sont des chefs-d'œuvre, on va y revenir tout de suite. Et Griffith était un personnage très étonnant, un maître qui a été, qui a commencé d'ailleurs comme acteur, puis ensuite il a joué au théâtre, et puis enfin il est arrivé au cinéma. Et on peut dire que c'est quelqu'un qui a porté à la perfection l'art du travelling d'abord, qui a su faire des recherches sur les éclairages, qui a su utiliser des gros plans, et je vous le disais à l'instant, qui a réalisé au moins deux chefs-d'œuvre, même si vous ne les avez pas vus, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Ce sont deux œuvres majeures du cinéma muet. Premier film en 1915, Naissance d'une nation, et en 1916, Intolérance. Et donc c'est sur ce tournage de Intolérance par Griffith que les frères Taviani se sont penchés. Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est en voyant un film italien que Griffith justement a revu son film Intolérance en retrouvant des décors et il a été complètement influencé par un film qu'il a vu pendant l'exposition universelle qui se passait je ne sais plus où, à San Francisco, enfin peu importe. Et ce film italien, c'est Cabiria. C'est un film de Giovanni Pastrone. C'est un film muet qui a été réalisé en 1914. Et Griffith, quand il a vu ce film, qu'il a découvert ce film, il a complètement changé sa façon de voir les choses, d'écrire les films. Il a été époustouflé par les décors extrêmement somptueux, les effets spéciaux, les mouvements de caméra. Et justement, Pastrone a été un des premiers à utiliser ce qu'on appelle maintenant le travelling, qu'il appelait le carrello. Je ne parle pas italien, je ne sais pas s'il faut rouler les airs ou pas, ou doubler les ailes, enfin peu importe. Et carrello, enfin en tout cas, ça veut dire chariot vraisemblablement, parce qu'en effet, c'est ça un travelling. Un travelling, c'est un chariot sur lequel on pose la caméra, et ce chariot passe sur des rails, et donc on pousse ce chariot sur les rails, et ça vous permet de filmer soit de droite à gauche, soit d'avant en arrière, soit d'arrière en avant, etc., etc. Donc, si vous voulez, si Griffith a su utiliser les travelling, c'est parce qu'il les avait vus dans le film de Pastrone, Cabiria. Donc c'est pour vous dire l'influence que le cinéma italien a eue sur des gens dont on parle dans le monde entier et des gens qui sont nommés comme Griffith, évidemment. Et donc, dans une séquence du film Cabiria de Pastrone, ce réalisateur montre Hannibal qui est en train de franchir les Alpes. Donc, tout le monde connaît l'histoire de Hannibal avec ses éléphants. Ça se passe en 218 avant Jésus-Christ. Et donc, ce décor tellement exceptionnel va donner des idées à Griffith. Et dans Intolérance, il va mettre une séquence. Dans son film Intolérance, il met une séquence sur Babylone. Avec quoi ? Eh bien, évidemment, des éléphants. Énormes, majestueux, qui sont époustouflants. Et donc, comme il a vu les décors de Cabiria et qu'il sait que ce sont des Italiens qui ont réalisé ce décor, il n'a de cesse que de demander qui sont ces Italiens qui ont fabriqué ces décors. Et on finit par les trouver. Alors bon, là je rentre pas dans le détail, mais enfin c'est vrai qu'il y avait deux jeunes toscans, puisque c'est ça le film de Taviani, Good Morning Babylonia. Donc vous l'avez compris, Good Morning Babylonia, parce que c'est eux qui vont, Good Morning on y viendra, mais aussi Babylonia, parce que c'est eux qui vont construire les décors et les fameux éléphants qui sont dans le film de Griffith. Voilà. Et qui, dans la séquence Babylone, justement. Voilà, donc c'est à cette rencontre que donc ces deux frères toscans, parce que dans le film de Taviani, vous le savez, il y a donc deux frères qui réalisent et qui vont parler de deux frères toscans qui sont aussi ils ont été à la bonne école puisque leur père est aussi restaurateur, le grand-père était restaurateur de cathédrale. Et donc les premiers plans, on va y venir tout de suite parce que je vais vous les montrer, mais je vais vous les commenter, bien évidemment. Et donc on s'aperçoit que les frères Taviani En montrant que ces deux bâtisseurs de cathédrales vont devenir des bâtisseurs de décors de cinéma, il y a un parallélisme évident. Les frères Taviani sacralisent le cinéma, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que bâtisseurs de cathédrales, on met en parallèle, bâtisseurs de cathédrales, c'est aussi faire rêver, je veux dire, c'est une sorte de, on y croit, donc fabrication de rêves à travers les cathédrales, mais on a l'impression que, au fond, le maître qui construit les cathédrales, c'est le même qui construit des films, parce que là aussi, quand on est réalisateur de films, on fabrique des rêves à travers le cinéma. Donc, je pense que c'est un film excellent, qui mérite d'être vu, qui ferait partie, devrait absolument faire partie aussi des cinémathèques personnelles de chacun. Et donc, alors, en deux mots, Paolo et Vittorio Taviani, ce sont deux réalisateurs qui ont du talent. Enfin, il y a des films, quand on a vu de certains films, notamment, je me souviens, Chaos, que j'ai vu il n'y a pas encore longtemps, vous avez des images qui vous restent à jamais, quoi, sur la rétine, quoi. C'est vraiment, ils ont le sens du cadre, ils ont le sens de la beauté, enfin, c'est assez exceptionnel. Et les frères Taviani, Paolo et Vittorio, ont été surtout connus pour un film qui a eu la Palme d'Or en 1977, c'est Padre Padrone. Et comme la plupart de leurs films, on sent qu'ils savent faire revivre le passé, ils ont su sublimer leur Italie, qu'ils aiment évidemment. Alors, je vous propose tout de suite, on va regarder le début du film, je vais vous le commenter, bien évidemment, et vous allez voir que c'est un film qui joue beaucoup sur la lumière. Ça commence dès le départ. Vous avez un grand plan, le générique arrive sur... c'est une construction avec des arcades d'architecture romaine, et cette construction, cette architecture prend quasiment, on va dire, presque les trois quarts de l'écran, avec juste un tout petit peu de ciel bleu en haut et un peu de pelouse verte au-dessous. Voilà, donc vous avez le décor est planté et tout le générique début passe avec cette musique formidable, très lyrique, sur cette architecture, sur ce plan. Le scénario et la réalisation ont été écrits par les frères Taviani. Ce film est une coproduction italienne et française, et pour la France, c'est Marin Karmitz qui a produit. La musique est composée par Nicolas Piovani. Alors on entend déjà des bruits off, et là on voit arriver dans le champ un homme déjà âgé, c'est le père des deux garçons que l'on va suivre après, il prend du recul, il est là au centre de l'image, retirez les échafaudages dit-il. En effet on a des gros plans maintenant des échafaudages avec beaucoup de travelling de bas en haut, on enlève les échelles. La caméra avance en travelling et on descend les toiles de jute qui cachaient la façade. Et c'est la façade de la cathédrale de Pise. On voit donc cet homme, déjà d'un certain âge, qui regarde. Et tout d'un coup, il reste encore une étoffe. Et là, donc, ce sont deux garçons qui viennent tirer l'étoffe. On descend l'étoffe, mais on s'aperçoit que... Il y a Andrea et Nicolas qui sont ses deux fils qui continuent encore, ils sont là dans la façade en train de terminer de sculpter quoi ? Bah justement un éléphant. Jamais rien comme les autres, cela disent les frères. Donc là il y a un champ contre champ et on s'aperçoit qu'ils sont en train de sculpter un éléphant. Évidemment, inutile de vous dire qu'on est dans la fiction parce qu'il n'y a pas d'éléphant sur la façade de la cathédrale de Pise, mais ça aidait bien les frères Taviani. Gros plan encore sur les éléphants, évidemment, dont on sait que c'est capital dans le film. Je me jette, dit l'un des deux frères. Et tous les deux descendent en même temps, d'une façon très habile, en se tenant avec une seule corde, et ils descendent jusqu'au sol. Une sedia. Une chaise, demande le père. On lui amène une chaise. Il s'assoit. Il est toujours au centre de l'écran. Et arrivent les deux frères qui, avec... Je suis sûr que ceux qui l'ont construit ont dû après la contempler d'ici, où je me trouve.
Donc,
ils ont fait du beau travail. C'est un miracle. Et là, on repasse contre-champ. Ils sont en train de regarder cette façade de la cathédrale de Pise, qui est majestueuse. Je bois à ta santé, Église des miracles, et à celle des aïeux de nos aïeux qui l'ont construite il y a 1000 ans. Voilà, et donc là, on passe directement cut sur un repas familial, parce qu'ils sont quand même 7 garçons, et dont les 2 qui vont partir ensuite aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant dans cette première séquence, j'ai envie de dire que vous avez tout du film. Comme toujours dans les bons films, les premières images vous disent tout du film. Pourquoi ? Le père donc vient de s'asseoir face à la façade, et c'est donc un bâtisseur de cathédrale. Et il choisit donc une place, l'emplacement, pour avoir le meilleur point de vue. Ben, écoutez, choisir l'endroit où on va se placer. C'est aussi savoir placer la caméra pour voir le meilleur point de vue. Eh bien, on est en train de faire du cinéma. On est déjà en train de faire du cinéma. Et donc, on découvre ces deux frères qui vont évidemment sculpter cet éléphant. Je vous le disais à l'instant, qui n'existe que dans la fiction, parce que c'est une fiction, il ne faut pas l'oublier. Alors donc... On va s'apercevoir que c'est bien incité parce qu'ils sont là, travaillés au burin très finement. Donc ce sont deux, Nicolas et Andrea, sont deux personnages extrêmement minutieux, et ça veut dire qu'ils vont toujours fonctionner en duo et toujours fonctionner avec cette force qui est due au duo, si je puis dire, et avec cette minutie. Et donc ensemble, ils vont construire les décors de Griffith, et on s'aperçoit qu'ensemble, ils font tout ensemble. Alors évidemment, ça nous renvoie aux deux frères Taviani qui font aussi des films ensemble. Alors quand on leur pose la question, ils s'en défendent, ils disent non, c'est deux frères, enfin bon. Mais on sent bien quand même qu'il y a une complicité entre les deux frères absolument incroyable. Et donc, ils vont partir, ils décident, parce que bon, le père est trop vieux, les choses évoluent, ça ne se passe pas exactement comme ils le souhaiteraient. Et donc, les deux frères, Andrea et Nicolas, décident d'aller aux États-Unis. Ben oui, c'est l'époque du rêve américain. Alors ils vont arriver, on va s'apercevoir que ce n'est pas aussi rose, parce qu'ils font des métiers vraiment un peu merdiques. Pour arriver à joindre les deux bouts, enfin, c'est pas évident, et jusqu'au moment où tout d'un coup ils vont découvrir c'est le hasard, hein, parce que le hasard fait bien les choses quelquefois. Ils se sont endormis sur leur carriole qui était sur le train, et un train est obligé de s'arrêter. Il va y avoir une rencontre dans ce train. Je vais essayer d'arriver tout de suite à cette séquence pour vous la montrer. Voilà, alors donc c'est le chapitre 4, il y a donc une vue, il y a une ligne droite, ce qui est intéressant parce que c'est plein de symbolisme évidemment. Et donc ensuite il y a une prise de vue, toujours un travelling très léger, et on change, on voit arriver ce train sur les rails que vous entendez, et puis de l'autre côté on voit arriver la carriole. Vous avez bien compris qu'à un moment il risque d'y avoir un télescopage. Là nous sommes sur les deux gros plans des têtes de chevaux qui avancent doucement, arrive aussi le train, donc l'un et l'autre arrivent, il y a une espèce de suspense. Et là, évidemment, le train est obligé de s'arrêter, les chevaux hurlent, les deux frères qui étaient sur la carriole se réveillent, ils se font guirlander. Il y a un très grand plan général où on aperçoit donc en face les chevaux contre la locomotive. Et tout d'un coup, les gens de la locomotive descendent en disant les freins sont bloqués. Alors les deux frères s'activent un petit peu. Il y en a un des chauffeurs de la locomotive qui dit, on dirait des étrangers. Vous voyez que les étrangers ne sont pas forcément bien vus nulle part et dans tous les temps. Et donc ils vont réparer les freins. Il faudra 1 heure pour réparer, dit l'un des... Donc là vous avez quelques personnes qui sont descendues des wagons. Il y a beaucoup de fumée, on sent qu'il y a une espèce de voile comme ça qui apparaît... Et puis tout d'un coup, vous l'entendez, je vous laisse l'entendre, on entend un chant qui s'élève des wagons, et là on est sur un plan très intéressant, on voit de dos un des deux frères qui se tourne doucement en écoutant ce chant. La caméra se déplace légèrement et on voit le deuxième frère qui lui aussi est très étonné parce qu'il s'agit évidemment d'un chant italien. « Encore un travelling qui nous amène beaucoup plus près du wagon d'où vient le chant. Il y a une lumière qui apparaît de droite à gauche avec des faisceaux de rayons de lumière. Une sorte de fondu enchaîné nous rapproche encore un peu plus. On découvre les chanteurs à l'intérieur du wagon. Et on découvre surtout, vous entendez, on entend d'abord le son. La caméra descend et on retrouve les deux frères qui sont là, face au wagon, et qui chantent également ce même chant, dans une communauté. Et à ce moment-là, la lumière passe sur eux, et aussi ce voile de fumée qui donne presque une poussière un peu féerique, surnaturelle. Non, nous ne sommes pas choristes à l'opéra, juste un moment de nostalgie. Nous sommes tous des artisans, sculpteurs, marbriers, menuisiers et peintres. Nous allons à San Francisco à l'exposition universelle pour monter le pavillon italien. Lui et moi sommes contremaîtres. Eux viennent d'Italie, les autres étaient déjà ici. Et vous deux? Donc on a un plan sur les deux frères qui baissent un peu la tête. Des artisans comme vous? De Toscane. C'est nous qui l'avons restauré, l'église des miracles. Mais alors, que faites-vous ici? Il baisse la tête. Et là, le train repart. On n'a pas compris. Que faites-vous ici? Il n'y aura pas la réponse. Alors on se reste sur les deux frères. Et tout d'un coup, la locomotive avance. Et on voit les deux frères qui restent là. Dans cette grande nature un peu désolée, le train sort du champ, on revient sur les deux frères en plan américain. Ils se regardent, ils regardent à droite et à gauche, puis ils tournent la tête vers le... Et là, ils ont tout compris. Et sans un mot, les voilà partis, ils courent, ils vont récupérer le train qui part vers ce qui sera évidemment leur destin. Et donc ils courent toujours et on voit tout d'un coup les menuisiers qui disent « Allez, venez voir, allez, dépêchez-vous », ils les encouragent. « Allez, c'était... » Donc en même temps, on voit les deux frères qui sont en plongée et qui finissent par... Ils arrivent jusqu'au train. Et à ce moment-là, ce qui est absolument remarquable, ils regardent dans le ciel et dans le ciel, on voit deux vautours. Et c'était intéressant parce que le plan d'avant, il se trouve qu'ils gardaient des cochons. Et tout d'un coup, les vautours étaient là, les charognards, prêts à bouffer les cochons morts. Et là, donc, il se trouve que un des frères fait un grand bras d'honneur en disant « Allez vous faire voir, évidemment ». Là, donc, après, on va passer dans une séquence où tout d'un coup, c'est la découverte, comme je vous le disais tout à l'heure, de Griffiths, qui découvre ce film Cabiria de Pastrone. Et c'est là qu'il trouve que c'est absolument extraordinaire. Donc, nous avons dans le film « Good Morning Babylonia » des extraits du film de Cabiria, comme nous aurons des extraits du film de « Intolérance » de Griffiths. Et donc... c'est donc un effet miroir. On s'aperçoit que donc puisque je parlais des deux frères, comme les deux frères Taviani, comme les deux frères Toscan, leur père Bonanno, le vrai père, j'ai envie de dire, qui les a mis au monde. Et je crois que leur deuxième père, là aussi, il y a quelque chose de dual. Le deuxième père, c'est Griffiths. C'est Griffiths qui leur permet d'avoir une vie plus qu'honnête en construisant quelque chose de magnifique qui sont justement les décors de Intolérance. C'est donc un effet miroir entre à la fois la cathédrale et le cinéma, l'architecture et le cinéma, avec quelquefois des plans qui se répètent, mais qui n'ont pas forcément toujours... On est dans un cycle, dans un mouvement, mais il n'y a pas toujours les mêmes conséquences. Alors je vous propose d'aller voir d'autres extraits pour aller un peu plus loin. Voilà, donc là, c'est une séquence qui est charmante parce que je vous disais que la lumière est très intéressante. Un des contremaîtres qui les a jetés lui dit « Vous aimez les oiseaux ?» Il dit « Comment ça, les oiseaux ?»« Oui, les oiseaux. » « Eh bien, vous êtes engagés, montez. » Et alors, il va leur dire, il faut qu'ils surveillent les oiseaux, qu'ils leur donnent à manger parce qu'on en a besoin pour un tournage. Des oiseaux pour une scène à tourner bientôt. Il faut les nourrir et nettoyer les cages. Et je vous trouverai des petits travaux au studio. C'est ce qu'ils vont essayer de faire et donc ils vont arriver. Vous dormirez avec les volatiles, ça c'est moins simple parce que les oiseaux n'arrêtent pas de couiner. Mais en même temps, c'est intéressant parce que Voilà, et donc il se retrouve complètement paumé dans un coin absolument improbable, mais à l'intérieur de la maison en bois, il y a des oiseaux. Donc ils vont commencer à travailler. Là vous avez donc dans le chapitre 9, ils vont commencer parce qu'ils sont tombés amoureux. Il y a deux danseuses qui jouent des figurantes et qui sont charmantes et qui vont devenir évidemment leurs femmes. Et là ils sont en train d'écrire des billets doux. Alors c'est là qu'on s'aperçoit que ça salue aussi le charme et la poésie des Italiens. Alors ils écrivent des petits billets doux qu'ils vont mettre dans une cage et qu'ils vont offrir à leur bien-aimée. Shut up, ça veut dire vos gueules, évidemment. Il commence à, parce que les oiseaux, ça commence à, alors ils ferment un grand rideau. Pour vous, c'est la nuit. Alors voilà la poésie. Tu es aussi belle, il hésite, qu'une montagne de neige. Et là, évidemment, comme ces petits billets doux vont être connus de toute l'équipe de tournage, aussi belle qu'une montagne de neige. Je te blottirai dans mon ombre pour t'empêcher de fondre. Alors, ce sont des petites phrases qui sont charmantes et qui vont être reprises tout le temps, même jusqu'à la femme de Griffiths qui va lui dire « Mets-toi dans mon ombre pour que tu ne fondes pas », etc., etc. Donc, c'est un film qui, à la fois, évidemment, est formidable d'un point de vue presque journalistique, documentariste, mais aussi, c'est d'une telle... ça a beaucoup de charme, quoi. Et donc là, ils finissent par, vous le voyez, dialoguer tous les deux en sifflant comme les oiseaux. Voilà, et donc là, on a évidemment toute la suite où ces deux jeunes filles sont formidables et vont devenir leurs femmes. Alors, le grand problème, évidemment, de ce film, enfin, je vous disais que c'était un duo indestructible, il y a quand même deux ruptures. On l'apprend en flashback. Il se trouve qu'un jour, alors qu'ils étaient enfants, il y en a un qui a pris un billet de loterie. Il y en avait un qui avait le numéro 18 et le numéro 50, et c'est le numéro 18 qui a gagné. Eh bien, donc, à un moment, il y en a un qui a été plus fort, qui a eu plus de chance que l'autre. Et il y a une deuxième rupture qui est dramatique. Tous les deux ont épousé donc ces deux jeunes filles superbes. Et il y en a une qui, elles sont enceintes en même temps. Et il y en a une qui meurt au moment de donner naissance à un fils. Évidemment, ça crée une rupture terrible. Et comme toutes les ruptures, ça crée des histoires. Ça veut dire que toutes ces histoires personnelles font avancer la grande histoire aussi. Mais en même temps, la grande histoire modifie complètement les comportements des petites histoires. Voilà. C'est donc un film sur la mémoire aussi, parce qu'il va y avoir la guerre de 14-18, on est en pleine guerre de 14-18, et quand je disais qu'on est un film sur la mémoire, je vous rappelle tout simplement que l'éléphant dont je vous ai parlé, et qui est un des personnages principaux du film, on parle toujours de mémoire d'éléphant. Donc vous voyez, on est vraiment dans le sujet, évidemment. C'est donc aussi un film qui est extrêmement lumineux. La lumière est omniprésente, elle est celle qui nous éclaire, j'en ai déjà parlé à l'instant. C'est aussi celle qui impressionne la pellicule. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand on est dans la salle de projection, c'est à la fois la lumière qui impressionne la pellicule pour être enregistrée, mais c'est en même temps elle qui projette sur l'écran, évidemment. Donc ça veut dire que pour les deux frères, le jour se lève. Et en même temps, c'est intéressant parce que quand ils ont quitté leur père qui est resté en Italie, il dit, mais alors, il y aura un décalage dans les horaires. Alors on dit oui. Il dit, ça veut dire que quand je vais me coucher, vous vous lèverez, oui. Ça veut dire que tous les soirs, quand le père se couche, il dit « Good morning, Andrea, good morning, Nicolas ». Et ça veut dire que donc le « good morning », Babylonia, vous avez compris que le titre, évidemment, est extrêmement important. Et donc, cette lumière est donc, à un moment, je vous l'ai évoqué, presque surnaturelle, et même envahie légèrement de poussière. Et d'ailleurs, quand ils arrivent à Hollywood, c'est pareil. Les frères Taviani ont fait en sorte que, quand ils arrivent à Hollywood, c'est très sombre, et puis tout d'un coup, la lumière arrive, un voile se dissipe, et donc Hollywood apparaît, c'est presque fantastique, évidemment, voilà. Et donc, quand à un moment les deux danseuses qui vont devenir évidemment leurs femmes dansent, qui est chargé de mettre la lumière sur ces danseuses qui sont en train d'être filmées? Eh bien justement, ce sont les deux frères, et donc ils sont là, ils ouvrent deux paravents, je veux dire, il y a quelque chose même de christique presque, et ils donnent la lumière sur ces femmes. Voilà, donc vous voyez, c'est un film qui est plein à la fois de poésie, très émotion, il y a beaucoup d'émotions aussi, mais une émotion qui fait fait du bien. Vous voyez, c'est pas, je fais pas pleurer dans les chaumières. C'est quelque chose qui vous touche profondément. Voilà, parce que ça vient de très loin, évidemment. Et donc, il arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'ils sont seuls, ils s'ennuient, et tout d'un coup, ils se disent, bon, il faut quand même agir, il faut y aller, il faut foncer, et ils décident de construire, ben quoi, un éléphant. Et donc, ils font venir les deux jeunes filles dont ils sont amoureux, et avec leurs amis, ils vont filmer. Mais là aussi, pour filmer, ils attendent le petit jour pour qu'on ait de la lumière sur les éléphants, et donc on filme l'éléphant. Évidemment, c'est un film que l'on va passer à Griffith, et ça va permettre, Griffith va dire, excellent, c'est ce qu'il me faut, 8, il m'en faut 8. Et c'est comme ça qu'ils vont construire les décors de Griffith. Donc je vais passer sur un certain nombre de séquences. Voilà, donc les deux sœurs arrivent, ils ont vraiment construit ça, là vous avez champ contre champ, et ils regardent cet éléphant qui est en pleine nature, qui est levé sur ses deux, enfin il est assis sur son arrière-train, et il est grandiose, il fait au moins 16 mètres de haut, énorme. Et là, on a une prise de vue où tout d'un coup, on les découvre, elles sont en plongée. Et sous l'éléphant, il y a les deux frères qui dorment tranquillement, heureux au fond de leur construction. Et les deux jeunes filles, évidemment, viennent les regarder. Et on sent qu'il y a beaucoup à la fois de tendresse. Voilà. Et donc, c'est tout à fait charmant. Ils se renvoient deux à deux l'avenir. Je vous passe une autre séquence où tout d'un coup, justement, on était chapitre 12. Il dit « Ce furent des gens heureux, les deux jeunes filles s'appellent Edna et Mabel, et des gens venus du monde entier attirés par le cinéma. Et un soir, nous les emmenâmes voir notre éléphant. » Donc là, il y a toute une procession. Ils sont dans la nuit pour le montrer à Griffith. Et donc, ils sont tous enterrés. Il est un peu trop gris, je trouve, donc ils vont le blanchir un petit peu. C'est bien pour l'œil humain, mais pas pour la pellicule. Avec un peu de lumière, je pourrais le filmer. Il fera bientôt jour dans 2 heures, donc ils vont attendre le petit jour. Je n'ai jamais vu le soleil se lever dans le bois. Alors, autant que ce soit parfait, donc il commence à blanchir l'éléphant. Formons un cercle de flambeaux autour de lui, donc vous voyez l'influence de la lumière. Un cercle de flambeaux autour de l'éléphant. C'est ce qu'ils font. Et donc, il y a quelque chose, c'est comme un totem. Et il commence à le nettoyer et à filmer. Et évidemment, séquence qui sera capitale. Voilà. En revanche, vous avez un des directeurs de production qui est assez jaloux et qui est agacé par ces Italiens, qui va mettre le feu à l'éléphant. Sauf que l'éléphant, il est en sécurité, si je puis dire, parce qu'il a été filmé. Et ça veut dire que déjà, on s'aperçoit que le cinéma, le film, est beaucoup plus fort que la mort. L'éléphant a disparu, mais le film demeure. Et voilà donc, chapitre 14, projection des images à Griffith. Donc on voit l'éléphant de face, de profil. Tout le monde est inquiet, évidemment. Edna, les deux sœurs, se demandent ce qui va arriver. On voit Griffith de dos qui est en train de filmer avec son fameux chapeau sur la tête. Homme extrêmement élégant, très longiligne, qui ressemble bien, c'est bien comme ça qu'il était. Toujours un gros plan. On entend la pellicule qui tourne, hein, puisqu'on lui projette. Là, il y a un travelling qui va d'en bas en haut. Et donc, évidemment, j'attends le dernier moment. On revient sur Griffith, qui est majestueux, qui applaudit. J'en veux 8, cet éléphant est magnifique. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est ainsi que se termine évidemment ce film. On sait pertinemment qu'il aura du succès. Alors à la fin, il y a quand même une séquence qui est très intéressante aussi. Ça se passe pendant la guerre de 14-18 parce que bon, malheureusement on est dans une période de guerre, et là encore le cinéma va être plus fort que la mort, parce que les deux frères vont retrouver une caméra et vont se filmer parce qu'ils savent très bien qu'ils vont mourir, et leurs images pourront être vues par leur fils. Voilà, le cinéma est plus fort que la mort. Sur ces paroles musclées révolutionnaires, on arrête là. Stéphane m'a fait signe qu'il fallait couper, donc je coupe. Allons-y. Et donc cette émission est rediffusée, je crois, ce soir même vers 20h, si je ne m'abuse. Et nous nous revoyons, écoutez, comme d'hab, mercredi prochain. Merci Stéphane.